France Musique. Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véré.
Le Brésil, la musique et le monde, 29e chapitre, les années 1960 et la montée des périls. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce Brésil où les nuages s'amoncellent et qui pourtant continuent à impressionner le monde entier par son dynamisme. Alors que s'est achevé le mandat de Juscelino Kubitschek en 1961 et que João Goulart a été élu président. L'important renouveau artistique est incarné par la nouvelle capitale, Brasilia. L'élan créé par les peintres, les architectes, les écrivains et les musiciens brésiliens, notamment ceux de la populaire Bossa Nova, a touché le monde entier. Et tous revendiquent l'héritage de deux d'entre eux qui sont partis, notamment le compositeur Villa-Lobos, décédé en 1959, et le peintre Cândido Portinari, mort en 1962. Et puis le Brésil attire nombre d'artistes étrangers, et beaucoup viennent notamment de France. Cette année-là, l'architecte et designer française Charlotte Perriand arrive à Rio de Janeiro, où son mari a été nommé directeur d'Air France. Dans les meubles qu'elle dessine là-bas, elle troque le sapin pour les veines sombres du jacaranda, qu'on appelle aussi le palissandre de Rio. De grands acteurs et musiciens sont aussi sur la scène du théâtre municipal de la ville, comme Maria Cazares, Pierre Brasseur, Michel Bouquet. Et c'est la grande soprano brésilienne Diva Pieranti qui crée la voix humaine de Jean Cocteau et Francis Poulenc un an avant la mort du compositeur. Enfin, le Brésil est de nouveau à l'honneur au Festival de Cannes. Où Pagador de Promessas, la parole donnée d'Anselmo Duarte, remporte la palme d'or. C'est l'histoire d'une promesse faite par un pauvre paysan du Nord-Est à la déesse Santa Bárbara de la religion syncrétique afro-brésilienne. À New York, le guitariste Carlos Lira se rebelle contre l'influence du jazz sur la samba avec beaucoup d'humour et, il faut bien le dire, beaucoup d'amour pour le jazz. C'était lors du concert de Bossa Nova au Carnegie Hall, le 21 novembre 1962.
Pobre samba meu, foi se misturando, se modernizando e se perdeu. E o rebolado, cadê, não tem mais, cadê o tal gingado que mexe com a gente? Coitado do meu samba, mudou de repente, influência do jazz. Quase que morreu. Acaba morrendo, está quase morrendo, não percebeu que o samba balança de um lado pro outro. O jazz é diferente, pra frente, pra trás. E o samba meio morto, ficou meio torto, influência do jazz. No ato do pano vai complicando, vai percando, vai. Vai entortando, vai sem descanso, vai, sai, cai do balanço. Pobre samba meu, volta lá pro morro e pede socorro onde nasceu. Pra não ser um samba com notas demais, não ser um samba torto, pra frente, pra trás. Vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz. No afro cubano vai complicando, vai pelo cano, vai. Vai entortando, vai sem descanso, vai, sai, cai do balanço. Pobre samba meu, volta lá pro morro e pede socorro onde nasceu. Pra não ser um samba com notas demais, não ser um samba torto, pra frente, pra trás. Vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz.
En cette année 1962, le président Goulart, très aimé par les milieux populaires qu'il appelle « Jongou », rencontre aux États-Unis le président Kennedy. Kennedy qui propose à l'Amérique latine une alliance pour le progrès dont les principes sont évoqués à la conférence de Punta del Este en Uruguay. Ainsi, le Brésil renforce sa coopération militaire avec son grand voisin. Et dans le domaine culturel, La coopération avec les États-Unis ne s'est jamais rompue et elle est plus forte que jamais. À son retour le 1er mai, Goulart mobilise l'électorat travailliste dans la meilleure tradition de Getúlio Vargas et annonce enfin une réforme agraire. De son côté, le compositeur Camargo Guarnieri fait plusieurs séjours aux États-Unis entre 1961 et 1963. C'est là-bas qu'il met un point final à sa 4e symphonie qu'il avait esquissée après sa visite à Brasilia et dont il avait égaré les brouillons. En 1963, il fait partie à New York du jury du concours Mitropoulos consacré au jeune chef d'orchestre, dont le lauréat d'ailleurs sera le français Jacques Houtman. Et c'est par hasard qu'il découvre les esquisses de cette symphonie entre les pages d'un livre qu'il avait apporté. Il la termine donc là-bas et la dédie à Leonard Bernstein, qu'il aimera beaucoup. Dans le premier mouvement, les rues joyeuses de Rio semblent danser au rythme de celles de Manhattan. John Nächtling à la tête de l'Orchestre symphonique de São Paulo dans le premier mouvement de la 4e symphonie de Camargo Guarnieri. En 1963, on va fêter à Rio le 100e anniversaire de la naissance de Ernesto Nazareth, que Darius Milhaud avait admiré lors de son séjour en 1917. Et deux compositeurs écrivent ce qu'ils ont intitulé en son hommage des Nazaretianas. D'abord Francisco Mignone, qui a alors 64 ans, et le tout jeune Marlos Nobre, il a 22 ans. Deux œuvres pour piano, à la manière des tangos et des machiches du vieux maître. On les écoute à la suite, atmosphère du Rio des années 20 garantie, qui s'harmonise à merveille avec l'ambiance du Brésil des années 60.
Thank you.
La pianiste mexicaine Silvia Navarrete dans ses deux Nazaretianas brésiliennes. En 1962, un jeune guitariste de 25 ans, Baden Powell, rencontre le poète Vinicius de Moraes, avec qui il fait équipe aussitôt. Son père, grand militant du scoutisme, lui avait donné le nom du fondateur du mouvement. En 1959, alors qu'il joue de la guitare à l'hôtel Plaza, il est approché par un jazzman américain qui lui demande l'autorisation de mettre des paroles sur sa samba triste. C'est ainsi que cette samba devient célèbre aux États-Unis et que Stan Getz l'enregistre avec Charlie Byrd. Baden Powell propose alors à Vinicius d'écrire des musiques bossa nova sur des thèmes afro-brésiliens. Ce sera l'objet d'un disque en 1966. Il vivra longtemps en dehors du Brésil, notamment à Paris, où il retrouvera Vinicius, avec qui il continuera à composer. La samba triste de Baden Powell. 1962, c'est aussi l'année du retour à Rio de Janeiro d'un compositeur et violoniste particulièrement attachant, César Guerra Peixe, qui était le fils d'un maréchal ferrant portugais arrivé au Brésil en 1893. De 1949 à 1953, Guerra Peixe réside dans le nord-est du pays, à Recife, au Pernambouc, où il se passionne pour les musiques populaires. C'est à Recife qu'il découvre, dira-t-il, qu'à son grand étonnement, la musique du frevo qu'on danse au carnaval n'a pas une origine afro-brésilienne comme on le pensait jusque-là. Ce serait, pense-t-il, des tziganes des pays de l'Est et des gitans espagnols qui l'auraient introduite au Brésil. Ce qui le touche d'autant plus qu'il pensait que ses parents étaient sans doute des gitans portugais. Après son séjour à Recife, dans le Nord-Est, il réside à São Paulo, où il compose plusieurs musiques de films et où il continue ses recherches et ses collectages de musique populaire. En 1959, il est nommé directeur de la commission du folklore dans l'État de São Paulo. Et 3 ans après, le voici de retour à Rio. Un parcours pour le moins étonnant. Son ami et compagnon d'études, le compositeur Edinho Krieger, s'en souvient.
Ele foi um dos primeiros a fazer a experiência com a
Il a été un des premiers à expérimenter la musique sérielle. Le premier a été Santoro et Guerra-Peixe, et ensuite suivi de nous tous.
Mas o Guerra-Peixe, na época em que ele era serialista, ele era o mais ortodoxo.
Mais à l'époque où Guerra-Peixe était sériel, il était le plus orthodoxe des sériels. Et quand il a découvert la musique du Nord-Est, le maracatu de Recife surtout, il a rompu avec son passé. Guerra-Peixe a toujours été un homme impétueux, très radical.
Et
il est ainsi devenu un nationaliste radical. C'était quelqu'un, ce Guerra-Peixe, et un grand ami aussi. Roberto Minchuk à la tête de l'orchestre symphonique de São Paulo dans la danse nordestine du Morão de César Guerra-Peixe. Guerra-Peixe retourne bientôt au Nord-Est et il y retrouve l'écrivain Ariano Suassuna, dont la pièce O Auto da Compadecida, en français Le jeu de la miséricordieuse, a fait date dans l'histoire du théâtre brésilien. Une œuvre inspirée des traditions littéraires très anciennes qui remontent au retable du théâtre médiéval uso-brésilien et plus près de nous à ce qu'on a appelé dans le Nord-Est la literatura de cordeo, ces récits populaires souvent illustrés de magnifiques gravures sur bois qu'on achetait pour quelques sous sur les places des villages et qui étaient accrochés à une cordelette. La pièce raconte les mésaventures de deux compères, João et Chico, qui vivent dans un petit village de Sertão, dans l'intérieur aride de la région. João fait croire à la femme du boulanger, son patron, qu'il faut enterrer son chien en latin, par le curé du village, car il a laissé un testament au bénéfice du curé, du sacristain et de l'évêque. Voilà alors les deux compères au centre d'un broglio fantasque qui, de mensonges en espièglerie, va les mener à la fin dans l'au-delà devant leur juge, le diable et Jésus lui-même sous les traits d'un acteur noir. Tout se termine bien, grâce à l'intervention de la Vierge Marie qui fait là œuvre de miséricorde. Le troisième mouvement andante du deuxième quatuor à cordes de César Guerra Peixe par le quatuor à cordes brésilien. Du 15 août au 15 septembre 1963, alors que la situation du pays devient vraiment préoccupante, se déroule à Rio le Festival international de musique et de danse soutenu par le gouverneur. De grands chefs comme Barbirolli, Maurice Leroux, Eugène Ormandy sont invités avec leurs orchestres de Londres, Berlin et Cleveland. Parmi les invités prestigieux, le compositeur Igor Stravinsky, dont c'est le deuxième voyage au Brésil. Et c'est une jeune pianiste de 27 ans, Jossi de Oliveira, qui vient de créer à Bruxelles ses mouvements pour piano et orchestre, qui l'accueille, ainsi que son épouse et son assistant, le chef d'orchestre Robert Kraft. Stravinsky, raconte Jossi de Oliveira, marche énergiquement avec une canne, tandis que son épouse est plongée sans arrêt dans la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Le premier concert a lieu au Théâtre municipal le 3 septembre avec Feu d'artifice, la symphonie en trois mouvements et le baiser de la fée. Robert Kraft alterne avec Stravinsky à la direction. Le deuxième est consacré à la messe, composée en 1948 avec le chœur et les solistes de l'Orchestre national de la Radio Mecchi. Durant son séjour, et grâce à Jossi, Stravinsky découvre un soir un rituel Umbanda de Macumba afro-brésilienne sur un morro, une colline derrière le quartier chic de Leblon. Jossi l'emmène même à une répétition de l'école de samba de la Mangueira. Le 8 septembre, le concert consacré à la messe est très applaudi dans le cadre magnifique de l'église de la Candelaria. Le Sanctus de la messe d'Igor Stravinsky, qui dirigeait ici les Greg Smith Singers, l'ensemble de chambre de l'Orchestre symphonique de la Columbia.
Carrefour des Amériques, une série de Marcel Quilliveré pour les médias francophones publics.
La pianiste Josidia Oliveira, qui avait lié amitié avec le compositeur russe, se passionnait au Brésil pour les musiques d'avant-garde électroacoustiques venues d'Europe. Elle avait épousé le chef d'orchestre Eleazar de Carvalho, qui l'avait emmené en 1956 à Boston et à Tanglewood, où elle avait connu notamment Luciano Berio, qui était là-bas comme compositeur en résidence et avec qui elle a eu une relation très forte, voire passionnelle. En 1961, il collabore avec elle à l'écriture d'un opéra multimédia monté à Rio de Janeiro avec la grande actrice Fernanda Montenegro. Apague meu spotlight, éteins mon projecteur, c'est le titre. C'était la création de la première œuvre électroacoustique au Brésil. Sur la scène du théâtre municipal, l'actrice déambule dans un étrange couloir avec un décor oppressant qui devient de plus en plus vertical. On devine des fragments de dialogue. On se connaissait ? Vous êtes mort. Avec ce lancinant et répétitif, comment va-t-il ? Comment ça va? Il est ici interprété par l'actrice Gabriela Geluda, suivie d'une chanson de Josidia Oliveira, Sofia Suicidossi. Sophie s'est suicidée sans laisser de message. Et l'humour noir est à nouveau de mise.
Morre, e ninguém se conhece. Nós nos conhecíamos.
Estranho.
De onde? Talvez da vida. Como vai? Como vai? Por quê? Talvez da vida. Por quê?
Estranho.
Por quê? Você já morreu?
Estranho.
Mas ele estava entre mortos.
Estranho.
Não era flutuante no espaço com os mortos. Estava imóvel. Serena. A luz fixava-nos. Quando voltei, longo corredor. Os mortos estavam mortos, imóveis, frios, Petrificados não me viam. Não me falavam mais. Sorriam para mim. Gritem. Falem. Cantem. Como vai? Como vai? Vai. Não me deixem só. Estas borboletas estranhas com pernas. E as flores? Por que tinham asas? Por quê? Flutuavam no ar de tão leves. Como vai? Como vai? Como vai?
Sofia suicidou-se da bala do revólver. Oh, Sofia. Sofia suicidou-se sem deixar recado. Oh, Sofia. Ninguém sabe por quê. Dizem nos jornais, Sofia suicidou-se, última edição. Rica moça e bela, por que morreu Sofia? Assim. Sofia suicidou-se da bala do revólver, ó. Sofia. Sofia suicidou-se sem deixar recado, ó. Sofia. Ninguém sabe por quê, dizem nos jornais. Sofia suicidou-se, última edição. Rica moça e bela, por que morreu Sofia? Assim.
Merveilleuse Jossy de Oliveira, pleine d'humour, qui a été primée en cette année 2019 au Festival du film de Londres et nominée au Festival international de cinéma à Nice. En 1963, le jeune Marlos Nobre gagne un concours ouvert aux compositeurs latino-américains et il obtient une bourse pour aller étudier 2 ans en Argentine avec Messiaen, Copland et Alberto Ginastera, qui venaient de fonder le centre d'études musicales au sein de l'Institut Torquato di Tella. Avant de partir, il compose un divertimento pour piano et orchestre qui remporte le prix du concours Ernesto Nazareth en 1965 à Rio de Janeiro. Et des chansons noires, inspirées par Bahia, au nord-est du pays où il était né. Comme ici cette cantilène. Ton nom, c'est la voix du soir, et je l'ai écrit sur le sable, la mer et le vent.
Thank you.
La cantilène des chansons noires de Marlos Nobri, interprétée par la soprano espagnole Pilar Jurado, et l'ensemble ibérique de violoncelle dirigé par Elias Ariscuren. C'est donc en Argentine que Marlos Nobri peut suivre la dégradation de la situation politique dans son pays. Les réformes sociales du président Goulart, qui sont soutenues par la gauche, se heurtent hélas à une inflation galopante qui déclenche des grèves dans tout le pays. Mais elles n'entravent pas heureusement l'organisation le 6 janvier 1963 d'un référendum populaire où les électeurs approuvent grandement le retour à un régime présidentiel. Goulart s'appuie sur l'aile modérée de la gauche et il obtient en mars une aide importante des États-Unis pour lutter contre l'inflation, ce mal endémique brésilien. L'opposition de droite accuse Goulart de penchant communiste et l'opposition de gauche le contraire. Le chaos s'installe. Tout part à la dérive, y compris la réforme agraire. L'opinion se méfie de la classe politique qu'elle pense corrompue. Quant aux militaires, ils pensent qu'un régime de type péroniste, voire communiste, pourrait s'installer. Dans les casernes se forment des noyaux de conspirateurs. En septembre, des sergents élus aux élections locales sont soudain considérés comme inéligibles. Ils se révoltent avec l'appui de la gauche. C'est cet incident qui met le feu aux poudres. Là-dessus, John Kennedy est assassiné le 22 novembre 1963. C'est de nouveau une époque bien troublée qui s'annonce au Brésil.
Thank you.
C'est le 1er décembre 1963 qu'est créée cette deuxième symphonie Brasilia de César Guerra Peixi, interprétée ici par l'orchestre symphonique Petrobras, dirigé par Isaac Karapchevski. L'année suivante, le président Goulart, soutenu par le Parti communiste, s'adresse à 150 000 personnes massées à Rio de Janeiro, entre la grande gare Central do Brasil et le bâtiment du ministère de la Guerre, en promettant de réformer la Constitution pour réaliser des réformes de base. Mais 6 jours après, l'opposition de la droite radicale parvient à réunir dans les rues près de 300 000 personnes qui défilent à São Paulo au nom de la marche des familles avec Dieu pour la liberté. Peu après, un général enfreint les ordres des autorités. Il conduit des militaires, en majorité des marins, à la projection du cuirassé Potemkin d'Eisenstein dans la salle du syndicat des métallos avec le soutien des communistes. Ordre est donné à l'armée de cerner le bâtiment. Les marins se rendent, mais sont amnistiés par Goulart. C'en est trop pour les généraux. L'insurrection s'organise. Cette année-là, la jeune Nara Leão, la muse et égérie de la bossa nova, qui avait accueilli tant de musiciens dans son superbe appartement de Copacabana, monte enfin sur scène, pour la première fois, au cabaret Le Bon Gourmet, dans une comédie musicale de Carlos Lyra et de Vinícius de Moraes, intitulée Pobre Menina Rica, pauvre petite fille riche. Gros succès durant 3 semaines. Dans la lancée, elle enregistre son premier disque, dans lequel elle prend ses distances avec la bossa nova, en tentant d'y introduire la thématique sociale, la misère, les favelas, les paysans. Fei un ao é bonito. Le moro existe, mais ce qui est laid n'est pas beau. La favela chante dans le moro, mais c'est une chanson triste.
O morro existe, mas pede pra se acabar. Canta, mas canta triste, porque tristeza é só que se tem pra contar. Chora, mas chora rindo, porque é valente e nunca se deixa quebrar. Que pede outra história.
Ama, o amor ama. Valor aflito, amor bonito. Que pede outra história.
Canta, mas canta triste, porque tristeza é só que se tem pra contar. Chora, mas chora rindo, porque é valente e nunca se deixa quebrar.
Le guitariste Carlos Lyra, qui est alors le compagnon de Nara Leão, trouve lui aussi la bossa nova trop éloignée des réalités brésiliennes et il vient de fonder, avec le poète Ferreira Goulart, communiste, le Centre populaire de la culture. Sous son influence, Nara se rapproche des interprètes de sambas dans les favelas des Morros et elle les fait venir travailler avec elle dans son bel appartement de Copacabana. Nara Leão est une personnalité qui étonnera constamment dans son parcours d'artiste. Et la petite fille riche qu'elle est, tout en continuant à s'habiller dans les boutiques de luxe d'Ipanema, interprète des chansons engagées qui dénoncent les inégalités sociales, sans toutefois appeler à la révolution. Vinicius de Moraes compose avec Carlos Lyra la chanson du Mercredi des cendres, qui est une espèce d'état des lieux dans ce Brésil qui commence à se déliter et où la dictature militaire semble inévitable. Acabou nosso carnaval. Notre carnaval s'est achevé. On ne chante plus, on ne s'amuse plus. Il ne reste que la saudade et les cendres.
Acabou nosso carnaval. Ninguém ouve cantar canções. Ninguém passa mais brincando feliz. E nos corações, saudades e cinzas foi o que restou. Pelas ruas o que se vê é uma gente que nem se vê, que nem se sorri, se beija e se abraça e sai caminhando, dançando e cantando cantigas de amor. Que a gente tem, qualquer dia vai se acabar. Todos vão sorrir. Voltou a esperança. É o povo que dança, contente da vida, feliz a cantar. Com a beleza dos velhos carnavais, que marchas tão lindas e o povo cantando seu canto de paz.
Le 31 mars 1964, dans l'état de Minas Gerais, un général se décide, seul, à mener ses troupes de Belo Horizonte à Rio de Janeiro. Cette révolution du mois d'avril, comme on l'a appelée, se rend maître du pays en quelques jours. Un coup d'état militaire renverse donc le président João Goulart qui se réfugie en Uruguay. On a souvent accusé les États-Unis d'avoir été derrière le putsch. Aujourd'hui, les historiens s'accordent à dire qu'ils n'y étaient pour rien, même si le coup leur convient. Les militaires n'ont même pas eu besoin d'un quelconque soutien logistique. Le maréchal Castelo Branco assume alors la présidence dès le 15 avril. C'est lui qui accueille le général de Gaulle en visite officielle en octobre. Le rêve de Kubitschek de moderniser le pays s'effondre et les mesures sociales préconisées par Goulart sont annulées. Soudain, le Brésil n'est sans doute plus le pays de l'avenir, comme on l'appelait si souvent ces années-là.
Thank you.
le deuxième mouvement lent et tragique de la quatrième symphonie de Camargo Guarnieri, John Nächtling à la tête de l'Orchestre symphonique de São Paulo. Et on va se quitter avec Nara Leão et une chanson engagée, emblématique de cette période du début de la dictature, Carcara, le vautour qui s'abat comme la sécheresse et la misère sur le sertão dans le nord-est brésilien. Le vautour qui attrape sa proie. Il tue et il mange. Ce Carcara ne va jamais mourir de faim. Ce disque, qui sort alors que la junte militaire est au pouvoir, aura au Brésil une résonance très forte.
Carcara, pega, mata e come. Carcara, não vai morrer de fome. Carcara, mais coragem do que homem. Carcara, pega, mata e come. Carcara. Lá no sertão é um bicho que voa que nem avião, ou é um pássaro malvado, tem o bico volteado que nem gavião. Carcara, quando vê roça queimada, sai voando e cantando. Carcara, vai fazer sua caçada. Carcara, come até cobra queimada, mas quando chega o tempo da invernada, pro sertão não tem mais roça queimada. Carcara, mesmo assim não passa fome, os borregos que nascem na baixada. Carcara, pega, mata e come. Carcara, não vai morrer de fome. Carcara, mais coragem do que homem. Carcara, pega, mata e come. Carcara é malvado, é valentão, é águia de lá do meu sertão. Os borregos novinhos não pode andar, ele pega no imbigo e até mata. Carcara.
C'est avec cette chanson Carcara, si populaire encore aujourd'hui au Brésil, qu'on se dit au revoir, pour se retrouver bien sûr dans le prochain épisode de Carrefour des Amériques, une émission des médias francophones publics réalisée par Béatrice Trichet, à la technique Jean-Michel Bernot, attaché de production Nelly Portal. On peut bien sûr écouter et réécouter cette émission en podcast.
À réécouter sur francemusique.fr.